c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Connaissez-vous cet air ? Les compositions de Verdi sont bien présentes dans nos têtes, grâce à tous les spots publicitaires et musiques de films qui les utilisent. Dans cet air, le chœur chante la destruction du monde suite à la colère de Dieu, dit Dies Irae. Vous avez entendu les coups de tonnerre au départ. Le chœur exprime la terreur de l'enfer, dit Dies Irae le répète. Verdi a conçu cette pièce sacrée en conjuguant les forces de l'orchestre, très percussif, celle des chœurs et celle des solistes. Cette messe de 1874 est dédiée au grand écrivain nationaliste Alessandro Manzoni, son ami, qui partage sa ferveur patriotique. Mais à cette date, l'Italie est enfin totalement unifiée. Je vais vous raconter comment cet humble musicien est devenu un des plus grands de tous les temps. Verdi est en effet issu d'une famille modeste d'Italie du Nord. Son père est aubergiste. Enfant, il jouait sur une vieille épinette et sur l'orgue du village. L'organiste du village lui donne donc des leçons. Puis un commerçant, mélomane, lui paie ses études à Milan, où il s'installe en 1832, il a 19 ans. C'est là qu'il a la révélation, en écoutant Mozart et Haydn. Il se familiarise avec les airs de Donizetti, Bellini et Rossini, dont nous avions parlé dans une émission précédente. Une chance exceptionnelle s'offre à lui, une commande de la Scala de Milan, ce qui est très rare pour un jeune musicien inconnu pour l'instant. C'est alors qu'il fait représenter son premier opéra, Oberto, en 1836. Le succès est assez important pour qu'on lui commande une seconde œuvre. Mais c'est véritablement en 1842 que le succès éclate avec son Nabucodonosor, plus familièrement Nabucco. Dans cette œuvre, l'influence de Moïse de Rossini est patente. Verdi utilise largement les chœurs, qui symbolisent le peuple. On peut dire que sa carrière décolle alors. En 1847, il donne Macbeth, son premier opéra shakespearien. Il est alors sollicité de toutes parts sur les grandes scènes italiennes, à Paris, à Londres. Il écrit au moins un opéra par an, ce qui assure sa situation matérielle. Il parvient au sommet de son art avec sa trilogie populaire. Rigoletto, Le Trouvère et La Traviata. en 1851, 1852 et 1853 respectivement. Je vais vous montrer comment Verdi recherche dans les livrets qu'il commande l'efficacité romantique, en s'inspirant des chefs-d'œuvre de Victor Hugo, de Shakespeare, de Schiller. La déraison romantique autorise tout. Elle crée des conflits où se mêlent amour, amitié, politique, où les passions sont exacerbées. Verdi cherche des situations fortes. Son romantisme s'exprime dans la place particulière qu'il accorde au rôle des personnages, qui ne sont pas là que pour chanter, distraire, pour la beauté du chant. Non, ils sont aussi là, surtout là, pour exalter les passions et montrer les contradictions qui torturent l'âme humaine. Je vais vous le montrer à travers des extraits de la Traviata, de Rigoletto, d'Aïda et d'Otello. Voici le duo entre un ténor et une soprano, L'Ibiamo Nelieti Calli, dans la Traviata.
Libiamo nelieti calici che la bellezza ne fiora e là fuggevo l'ora s'inebria voluta libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio all'accore ogni potente va. Libiamo, amore, amor fra i calici più caldi baci avrà.
Ce ténor représente Alfredo, un jeune nanti qui fréquente les soirées mondaines. Dans cet air, il lève son verre à la santé de Violetta, l'hôtesse de la soirée. Violetta, on l'appelle la Traviata, c'est-à-dire la dévoyée, prostituée de luxe si vous voulez, demi-mondaine. Levons notre verre, buvons dans ces joyeuses coupes, que l'heure fugitive s'enivre de volupté. Buvons dans les doux frissons que suscite l'amour. Libiamo, buvons. Il évoque ensuite les yeux tout-puissants qui percent le cœur. Occhio al cuore omnipotente. Car il est tombé amoureux de Violetta. Violetta lui répond : parmi vous, je saurai partager mes heures les plus joyeuses. Amusons-nous, godiamo. Car rapide et fugace est le plaisir de l'amour. Réjouissons-nous, godiamo, profitons. Le livret est adapté de la pièce d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias. C'est la même tragédie qui se joue entre un auteur et une demi-mondaine qui va mourir tragiquement. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'opéra que l'on met en scène des personnages contemporains et non des personnages issus de légendes ou de l'histoire. Or, c'est dangereux de parler de ces contemporains. Cela risque de froisser les personnages qui se sentent visés. Dès lors, même si Verdi n'a pas peur de dénoncer les travers de la bourgeoisie de son époque, il est alors obligé de transformer les titres, les noms, les lieux, pour ne pas s'attirer les foudres de ces hauts personnages. Le drame qui se joue ici, c'est que la Traviata, femme entretenue, a trouvé l'amour véritable et c'est réciproque. Les deux amants partent vivre ensemble, mais le père du garçon vient le chercher. Il supplie la Traviata de le laisser partir, afin de ne pas salir la réputation de leur famille. Elle accepte de sacrifier son amour sur l'autel de la bienséance. Mais ensuite, atteinte de phtisie pulmonaire, elle mène grande vie pour oublier et pour hâter sa fin en précipitant l'évolution de la maladie. Maintenant, si vous entendez l'air fameux de Rigoletto, la donna è mobile, c'est-à-dire la femme est changeante, qual pluma al vento, comme la plume au vent, peut-être ne vous rendez-vous pas compte que c'est une façon de se disculper pour le personnage du duc de Mantoue. Ce séducteur impénitent qui a réussi à abuser de la fille de Rigoletto, son bouffon bossu.
Sempre una labile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, ma più è lento, muta scelta e di pensiere. E di pensiere.
Dans cet air, le duc explique son comportement avec les femmes. Pff, qu'est-ce que ça peut faire qu'une femme souffre? N'est-elle pas mouvante comme la plume au vent? Volage, elle change d'avis tout le temps, on ne sait plus quoi faire avec elle. Et même son visage si aimable cache des mensonges. Il ne faut pas lui faire confiance. Mais pourtant, on ne se sent jamais pleinement heureux si on ne boit pas l'amour sur son sein. Donc, le désir est justifié. Le viol est excusé par la fourberie de la femme. La fille de Rigoletto était bien amoureuse de lui, mais n'avait pas prévu de lui céder ainsi. Son honneur est détruit. Dans l'air d'Aïda, Qui Radames Verra, on entend la princesse captive devenue esclave se morfondre, se désespérer dans l'attente de son aimé, qui n'est autre que le chef des armées de Pharaon qui l'a faite captive. Captive, elle l'est doublement, puisque son cœur lui est irrémédiablement attaché, alors qu'une autre, la fille de Pharaon, l'aime aussi. Aïda se lamente. Que va dire Radames ? J'en tremble. Vient-il me faire un dernier adieu ? Les eaux noires du Nil seront ma tombe. Je ne reverrai pas ma patrie. Ses plages parfumées, ses vertes collines. Elle parle de son pays, l'Éthiopie. Finalement, les deux amants choisissent de s'unir dans la mort. C'est suite à l'inauguration du canal de Suez que l'Égypte commande à Verdi une œuvre pour le nouvel opéra du Caire. C'est une époque de découverte archéologique majeure en Égypte. Et son développement économique aussi commence à poindre. C'est sous la direction d'un Français, Ferdinand de Lesseps, que cette voie d'eau unique en son genre a été percée, entre 1859 et 1869, à l'époque du Second Empire. Cette inauguration s'est faite en grande pompe, en novembre 1869, en présence de l'impératrice Eugénie et de l'émir Abdelkader. Puis ce fameux canal, qui permet de passer de l'océan Indien à la Méditerranée en évitant de faire le tour par le sud de l'Afrique, a été nationalisé en 1956, par Nasser, président de l'Égypte. Une très belle exposition à l'Institut du monde arabe a retracé toute cette histoire en 2018. Pourtant, cet opéra n'a pas pu être joué à la date prévue, car la guerre franco-allemande empêche le transport des décors de Paris en Égypte. En effet, les armées prussiennes assiègent Paris. La guerre finie, elle s'est terminée par la défaite de la France et a entraîné la chute de l'Empire de Napoléon III, la République est proclamée le 4 septembre 1870. C'est le 24 décembre 1871 qu'Aïda a été créée au Nouvel Opéra du Caire. Cet opéra magnifique qui assura une gloire mondiale à son auteur s'est déroulé dans un luxe inouï et assura un salaire mirobolant à Verdi. Elle a été jouée en 1872 à la Scala de Milan, en 1874 au Théâtre italien de Paris, puis à l'Opéra de Paris, mais en français, ce qui était sa première version. Cette histoire d'amour impossible condamnée par avance se retrouve dans un autre drame typique d'un romantisme morbide et sourcilleux dans la tragédie d'Othello de Shakespeare, transformé pour l'opéra par Verdi. Othello semble être victime des forces du mal que représente son assistant Iago, qui est jaloux. C'est un traître, il incarne le mal absolu. Or, Othello est naïf, il croit ce que lui dit Iago, son ami. Soi-disant, Desdémone l'aurait trompé. Alors, aveuglé par sa passion et son orgueil possessif, par un désir de vengeance, après avoir cru à cette fausse accusation portée par Iago, il tue sa bien-aimée dans son sommeil. Desdémone, la jeune femme aimante, est victime de l'orgueil et de l'aveuglement masculin. C'est un féminicide. Je vous laisse écouter l'ouverture qui laisse augurer le drame qui va venir. Le solo de hautbois se combine avec les autres instruments pour exprimer tout d'abord un élan d'espoir qui sombre assez vite dans la mélancolie et l'angoisse. C'est seulement à la fin de sa vie, à l'âge de 80 ans, que Verdi compose un opéra comique, Falstaff, à partir de l'œuvre de Shakespeare aussi, Les joyeuses commères de Windsor. Rit d'un rien, car elles sont revenues de tout. C'est plutôt désespérant là aussi. Cet opéra bouffe est créé à la Scala de Milan en 1893 et à l'Opéra de Paris l'année suivante. D'ailleurs, cette année 1894, c'est aussi le début de la carrière de Caruso à Naples. Il connaît une renommée internationale après ses débuts à la Scala de Milan. C'est la première superstar du disque, une nouveauté à cette époque de la deuxième révolution industrielle. 1896. Maintenant, c'est la date des premiers Jeux Olympiques modernes, lancés par Pierre de Coubertin à Athènes. Il insiste pour que les prochains aient lieu à Paris, ce qui sera chose faite en 1900 et en 1924, avant de faire le tour du monde et revenir à Paris en 2024. Je vais terminer par le début, avec le cœur des esclaves de Nabucco. Pour éviter la censure en incitant le peuple à la rébellion, nous sommes en 1842, l'Italie est encore sous le joug de l'Autriche, Verdi met en scène ce cœur des esclaves, les Juifs retenus à Babylone par le roi Nabucodonosor. Ils chantent, ils pleurent, ils disent « Va, pensée, sur tes ailes dorées, pose-toi sur les pentes, les collines, où embaument tièdes et suaves les douces brises du sol natal. » Ce sont les paroles mêmes de la complainte d'Aïda, qui regrettait elle aussi sa patrie. D'ailleurs, ce thème puise aussi son inspiration dans Rossini, qui avait déjà mis en scène une poignante prière pour la liberté dans son Moïse en Égypte.
Thank you.
Cet air représente l'aspiration du peuple italien à se libérer de l'occupation autrichienne. Le mouvement politique visant à unifier les différents royaumes et duchés italiens et à libérer l'Italie du joug étranger est appelé le Risorgimento. Les défenseurs de l'indépendance utilisent le nom de Verdi, dont l'acronyme signifie Vittorio Emanuele Re d'Italia, pour susciter l'élan patriotique. Partout on tague sur les murs V-E-R-D-I. Le but, c'est d'unifier l'Italie sous l'autorité du roi Victor Emmanuel II. Lors de la procession funéraire qui parcourt les rues de Milan en 1901, pour accompagner Verdi à sa dernière demeure, la foule chanta le chœur des esclaves, Va pensiero, en son hommage. Verdi n'avait pas d'héritier. Il a alors employé sa fortune à fonder une maison de retraite pour les musiciens pauvres en 1899. Et c'est là qu'il est mort en 1901. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.